Bonus.
Trax.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau Supérieur. Aujourd'hui, recentrez-vous, ouvrez vos chakras et souvenez-vous de vos vies antérieures car on va parler de Chained Echoes. Comme on se retrouve, ça faisait comme d'habitude bien longtemps. Après cette fois-ci, je vous l'avais déjà un petit peu signifié je crois lors des derniers épisodes, j'ai une bonne raison de n'avoir fait que très peu d'épisodes en beaucoup de mois, c'est que j'écrivais un livre, et un livre en plus sur les JRPG, donc ça tombe bien, ça nous intéresse. Voilà, je peux le dire maintenant officiellement, après tout ce teasing, toutes ces petites allusions étranges à ce fameux projet qui me prenait beaucoup de temps. Un livre édité chez Third Edition, qui sort le 7 décembre, qui s'appelle En quête de JRPG, l'aventure d'un genre. Il est précommandable partout, évidemment, dans les sites internet, dans les librairies, sur le site de Third Edition. C'est trop bien, c'est fou. C'est un rêve d'enfant, d'écrire un livre. Je suis trop content en plus que ce soit sur les JRPG. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop content qu'il m'ait laissé cette chance, que Mehdi El Kanafi, mon éditeur, un des co-fondateurs de la maison d'édition, ait travaillé avec moi, ait bien voulu travailler avec moi. C'est trop bien. J'ai hâte que vous puissiez le lire, j'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte d'avoir les retours, ce que les gens aimaient, pas aimaient. C'est quoi comme livre? Bon, ça parle de JRPG, ouais, ok, mais qu'est-ce que ça en dit? C'est un... Moi, je dirais que c'est un essai philosophique. J'essaye de voir quel est le plaisir spécifique qu'on prend à jouer au JRPG. C'est un peu l'aboutissement de la démarche que j'ai entamé avec vous dans ce podcast. En tout cas, c'est l'aboutissement de ma réflexion sûrement. En tout cas, à ce stade-là, à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Peut-être que ça changera après, dans les années à venir, à force de continuer à y jouer, mais pour le moment, j'ai tout sorti, quoi. J'ai tout mis, tout ce que je pouvais. Et du coup, c'est trop bien parce que ça a commencé sous forme de podcast, un peu en brouillon. Vous retrouverez sûrement des trucs que j'ai déjà dit ici, mais pas que. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour le livre et que j'ai essayé de ne pas gâcher en vous parlant. Et puis voilà, des petits concepts, des petites idées qui sont apparues en parlant dans ce micro et qui finalement se retrouvent développées au fil des pages et c'est trop bien quoi. Ça, voilà. Donc je vais pas m'étendre dessus outre mesure. Peut-être je ferai un épisode avec Mehdi, un enfant de l'ATB, comme j'avais fait avec JB il y a quelques mois. Ça serait trop cool, on pourrait en plus en parler un peu plus éventuellement. Je sais pas, après on verra quand le livre sortira, si je ferai d'autres trucs pour parler de tout ça, mais voilà, vous le savez maintenant, c'est officiel. La couverture, elle est trop belle en plus, allez la voir. Elle est faite par Guillaume Saint-Gelin, un artiste français de BD, assez réputé, qui a bossé sur pas mal de trucs, notamment Citizen Sleeper, si vous avez joué à ce jeu, qui est un jeu de rôle aussi d'ailleurs, un jeu indépendant sorti l'année dernière, je crois, avec une très belle réputation derrière lui. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. C'est de la science-fiction, pas mal de jet de dés, pas mal de décisions, un univers un peu dystopique, ça a l'air assez intéressant. Et toute la direction artistique, on la doit du coup à Guillaume Saint-Gelin, cet artiste qui a aussi fait la couverture de mon livre. Et oui, je peux dire mon livre, incroyable, je suis pas le seul à l'avoir fait bien sûr, mais c'est moi qui ai écrit dedans en tout cas. Donc voilà, il y a des illustrations, quelques-unes par-ci par-là, qui sont toutes très belles. Et puis j'ai hâte de l'avoir entre les mains, j'ai hâte que vous l'ayez aussi, j'ai hâte qu'on en parle. Donc trop bien, c'est trop fou. L'argent que vous ne mettez pas dans le Patreon que je n'ai pas, bah, mettez-le dans ce livre quand il sortira quoi. À Noël en plus, quel beau cadeau pour le sapin, pour faire une phrase de journaliste à la con. Oui, c'est ce que dit le journaliste, hein. Un cadeau pour le sapin, bien connu. Un cadeau pour mamie, un pour papy, un pour le sapin. C'est ce qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles de journalistes, hein, je crois, en tout cas. J'ai bien repris la phrase.
C'est du journalisme total.
Donc voilà. Voilà pourquoi il n'y avait pas de podcast. Parce que je réfléchissais et je parlais de JRPG, mais sur Word, en attendant de l'envoyer à Mehdi pour qu'il le relise. Toujours en retard, évidemment, mes envois de chapitres, mais on a fini par le faire. Et ça n'empêche que j'ai encore envie de faire du podcast, j'ai encore envie de parler ici, donc je reviens tout feu tout flamme pour parler de Chained Echoes, du coup un JRPG indépendant sorti en décembre 2022 qui est l'œuvre en grande partie d'un seul homme, Matthias Linda, un développeur allemand du coup fan de JRPG. C'est un projet qui sur le papier est d'assez petite envergure, ça n'a rien à voir avec les gros AAA et mastodontes du genre dont on a pu parler précédemment. Je crois que c'est le premier jeu véritablement indépendant dont on parle dans niveau supérieur, et c'est trop bien parce que on va en parler, mais ce jeu, il est petit que sur le papier, quoi. Je l'ai fini en 40 heures déjà, donc il y a une sacrée durée de vie. Et même sur beaucoup d'aspects, il est très ambitieux et en plus, il a les moyens de ses ambitions malgré le peu de gens qui ont travaillé dessus. Parce qu'évidemment, il n'est pas entièrement seul, Matthias Linda. C'est lui qui écrit, qui dirige, qui programme. Mais il s'est aidé d'autres gens. Il y a eu de la main-d'œuvre en plus, hein. On ne peut pas faire un jeu entièrement tout seul, rien qu'au niveau de la BO, des graphismes, etc. Il y a eu pas mal d'artistes qui ont travaillé. C'est un projet Kickstarter, c'est du crowdfunding, qui est, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été complété. Je crois qu'il a eu beaucoup plus que ce qu'il demandait. Je crois qu'il demandait 30 000 et qu'il y a eu 130 000, un truc comme ça. J'ai pas du tout les chiffres devant moi et j'ai rien révisé. Donc je dis sûrement des bêtises, mais je sais que ça reste un budget assez raisonnable vu maintenant ce qui se pratique dans les jeux vidéo. Mais déjà, le projet plaisait beaucoup parce qu'il a récolté plus que ce qu'il voulait. Et tant mieux, parce qu'il les a très bien utilisés, contrairement à d'autres projets, notamment francophones, qui commencent par un N et qui finissent par OUB, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'on est face à un projet de passionné, de fan du genre, qui a été nourri aux mêmes références que celles dont on a commencé à en parler entre nous. Et ce qui est du coup intéressant à voir, c'est comment il mobilise ses références, quel est le rapport qu'il a avec l'histoire du genre. Est-ce qu'il est servile? Est-ce qu'il fait que la répéter? Est-ce qu'il fait que invoquer des références sans les dépasser, comme on a pu le voir dans d'autres projets assez récents qui frisent beaucoup et qui flirtent beaucoup avec la nostalgie, mais qui la dépassent pas vraiment? On pourra en reparler à la fin. Ou est-ce qu'il arrive à utiliser les références à bon escient, quoi? C'est ça un petit peu la question, je pense, qui devrait nous intéresser quand on s'intéresse à Chained Echoes. Parce que vraiment, le genre, il tourne un peu en rond sur lui-même, avec beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de séries qui s'auto-référencent, qui en sont à leur 16e épisode ou à leur 12e épisode, pour citer les deux plus grandes, et qui, du coup, ont du mal parfois à innover, ou n'osent pas innover, en tout cas. Et là, du coup, on est face à, je sais pas, quelqu'un comme vous et moi, qui a pris 10 ans de sa vie, qui a tout donné dans un projet parce qu'il aime le genre, parce qu'il a en tête les grands monuments qu'on a déjà pu évoquer de ci, de là. Et du coup, qu'est-ce qu'il en fait, quoi? C'est ça qui est intéressant, je pense, à voir. Donc, on va essayer de réfléchir à ça. Est-ce que Chained Echoes, c'est uniquement un projet de fan, avec tout ce que ça peut impliquer de pure nostalgie et d'absence de recul, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Voilà ce qu'on va essayer de résoudre comme problème aujourd'hui. Alors, Chained Echoes, puisqu'il est inspiré de beaucoup des grands noms du JRPG, a été évidemment développé sous Unity, mais nous offre un pixel art très propre. Je pense pas que ce soit un pixel art extrêmement travaillé, léché, comme on a pu en voir sur certains autres jeux, genre Dead Cells, mais c'est propre. C'est très, justement, peut-être un peu trop propre, c'est ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher si on voulait vraiment, mais c'est très beau, les couleurs sont très vives, on retrouve vraiment à l'ancienne tout ce qu'on aimait bien dans les jeux 16 bits, Chrono Trigger, les premiers Final Fantasy, etc. Des ciels plus bleus que bleus, etc. C'est le pixel art qu'on a en tête quand on se souvient de nos moments de jeu sur des jeux en pixel, en fait. C'est celui qui est amélioré par notre esprit, sans aller jusque dans le délire HD 2D de Square sur Octopath Traveler ou le remake de Dragon Quest 3 qui sortira dans quelques mois, où là vraiment on a des éclairages modernes sur du pixel. Là non, on a du pixel art classique, mais où ça se branle pas non plus sur des gifs qu'on va mettre sur Twitter pour impressionner la galerie. Non pas que ce soit un mal, hein, c'est souvent très très beau, et c'est un peu plus ce qu'on va sûrement peut-être trouver dans Sea of Stars, dont on reparlera peut-être un peu à la fin, parce que c'est aussi un JRPG indépendant sorti à l'heure où j'enregistre il y a quelques jours à peine, et qui va forcément entrer en grande concurrence avec Chained Echoes, puisque ce sont deux JRPG indépendants qui s'inspirent de leurs aînés pour proposer quelque chose de nouveau, et qui du coup ne sont pas faits par des grands studios du genre. Mais Chained Echoes du coup, pixel art, très beau, très léché, aucune recherche de sophistication à outrance, parfois du coup peut-être un peu trop lisse, mais c'est stylé. Les personnages sont en plus dans leur design vachement bien travaillés, reconnaissables, vite on s'y attache parce que ils ont quelques caractéristiques saillantes qui fait qu'on arrive facilement à les reconnaître, comme les jeux à l'époque, hein, qui eux n'avaient pas le choix pour qu'on puisse reconnaître les personnages rapidement que de les faire de façon très reconnaissable. Mais là, du coup, ils s'inspirent de ça et c'est super. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ce qui, moi, m'a vraiment déjà très vite conquis. Ça va être un petit peu bête, mais quand on se déplace, ça va vite, quoi. Le personnage, il court vite. On se déplace vite, l'exploration, du coup, elle est assez... assez dynamique, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à trouver parmi les niveaux. Alors pas d'open world, hein, évidemment, mais pas mal de petites cartes assez grandes, genre les une zone, on va dire, je sais pas, on prend une des premières zones qu'on explore, ça doit être en français les champs de Rolan. Bah vous avez de quoi faire, quoi. Il y a des trésors enfouis qu'on peut trouver grâce à des petites indications dans le décor. Il y a des petits loots à ramasser, mais sans appuyer sur le bouton, juste on court dessus, on les ramasse. Il y a des petites cavernes cachées, enfin... Le jeu nous offre pas mal de petits trucs à trouver dans le décor. En plus, on peut assez vite, facilement tout comprendre et voir ce qui nous manque. Parce qu'en fait, la grande trouvaille du jeu pour l'exploration, c'est d'avoir une sorte de tableau qu'on peut ouvrir à tout moment et qui nous dit « Ah, dans cette zone-là, il faudrait que tu trouves 6 trésors enfouis, 3 cavernes cachées, que tu affrontes 5 ennemis comme ça. » Et si on remplit ces petits objectifs... Ça valide des cases sur un grand tableau avec plein de cases, et plus on a de cases qui sont validées à la suite, plus on fait des chaînes de réussite en gros, plus on a des récompenses importantes. Et ça c'est pas mal, ça motive un petit peu, parfois on explore, on sait pas trop quoi faire, on a envie de se balader mais on sait pas où aller, etc. Bah on ouvre un peu le sous-menu de récompenses d'exploration. Et puis on se dit, ah ouais, il manque encore 2-3 coffres, où est-ce qu'ils pourraient être? On ouvre la carte, il y a en plus dans les décors des points de téléportation à quelques endroits précis qui sont faciles d'accès. Donc vraiment, ce qui m'a vraiment, moi, le plus charmé dès le début, c'est cette exploration très dynamique, ça va vite, il y a plein de petits trucs à trouver, on peut y revenir facilement si on a la flemme en moment grâce au téléporteur. Ça c'est trop bien, ça c'est moderne, et les décors, pour le coup, sont très beaux, on retrouve beaucoup des classiques du JRPG, les champs, les forêts, les grottes, les temples, les ruines. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'égout, ou en tout cas, on n'y reste pas longtemps s'il y en a, je n'ai pas de souvenir, ce qui est assez étonnant et plutôt agréable. C'est vrai qu'on en a un petit peu soupé, les égouts, mais non, vraiment, il y a tout ce qu'on veut dans un JRPG niveau décor. Ils sont jolis, et en plus, dedans, il y a des trucs à faire. Ça, c'est trop bien. Cette histoire-là d'exploration assez dynamique avec plein de petites énigmes dedans, ça m'a rappelé vraiment CrossCode, qui est un action RPG sorti il y a quelques années, un indépendant je crois aussi, et qui pareil proposait beaucoup de petites énigmes avec un peu plus de plateforme dans CrossCode, mais je trouve ça vraiment trop bien que les JRPG en 2D s'approprient un peu les tenants du genre, en les améliorant, en rendant ça plus confortable, plus dynamique, et qu'ils le considèrent vraiment comme un truc qui peut être intéressant et pas juste on se balade d'un point A à un point B, on a des combats entre les deux et on ferme notre gueule. Là, ça fait plaisir, quoi. Je trouve vraiment que l'exploration, elle est léchée, et c'est, je pense, ouais, comme je le dis, la première chose qui m'a fait rentrer dans le jeu, c'est ça, clairement, assez rapidement. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà, bravo déjà Mathias, félicitations. Et ce côté très propre, très léché, nostalgique mais moderne en même temps, on le retrouve aussi dans la mise en scène qui respecte vachement ce qui se faisait à l'époque des JRPG 16 bits qui du coup devaient se contenter des moyens techniques de la Super Nintendo, de la Mega Drive et compagnie pour mettre en scène de grandes épopées. Là, c'est repris. Et je trouve ça assez agréable que, là aussi, il joue un peu le jeu, le créateur, des références qu'il a, en surabusant pas de techniques modernes, mais en utilisant tout ce qu'on utilisait à l'époque, mais de façon, bah forcément, les pixels sont beaucoup moins gros, il y a beaucoup plus de détails, et du coup, on peut, comment dirais-je, faire une mise en scène plus propre, plus claire, plus synthétique, mais en même temps, en gardant un peu la surexagération de certains points, comme je le disais pour les personnages. Ou alors, même quand les ennemis, dans des scènes cinématiques, je sais pas, nous tapent ou nous poussent, on retrouve les petits bonhommes qui se tapent et qui s'envoient en l'air, comme dans un animé, qui s'envoient valser à la ronde. Je sais plus du tout parler, vous avez dû le remarquer depuis le début du podcast, je dis n'importe quoi. J'espère que vous comprenez quand même, mais c'est terrible, je ne sais plus faire de podcast. Ils s'envoient valser à la ronde, hein. Du coup, on en était là. C'est désastreux. Mais tous ces petits éléments de mise en scène qui raviront les vieux de la vieille, ils sont là, mais ils sont bien utilisés, en fait. Donc, autant dans le design, dans le pixel art, dans l'exploration, on est sur des bases connues, on est dans ce qu'on connaît, mais c'est bien fait et c'est pas feignant. Et vraiment, c'est pour ça que l'idée de... Ah, c'est comme dans nos souvenirs, parce que forcément, les jeux vidéo ont cette capacité à nous faire vivre des expériences qui, lorsqu'elles sont remémorées par notre esprit, sont améliorées. Parce que vu qu'on y a participé, qu'on a appuyé sur les boutons, que c'est nous en partie qui les avons créées, on s'y est tellement immergé que forcément, elles sont vachement améliorées. Elles sont mieux que ce que c'était en vrai si on ne faisait que regarder l'écran sans avoir la manette, sans y toucher. Donc, je sais pas, vous avez joué à FF6, sûrement que dans vos souvenirs, c'est beaucoup plus beau. C'est un peu ce qu'a voulu faire Square Enix avec les Pixel Remaster, la collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, des 6 premiers Final Fantasy, où c'est les jeux originaux en pixel, mais avec un design de pixel un peu plus fin. Là, c'est ce que Matthias Linda a pu faire dès le début, et il ne l'a pas fait qu'au niveau graphique. Il l'a fait, du coup, dans l'exploration, qui est sûrement plus fluide dans vos souvenirs qu'en vrai. Il l'a fait dans les designs des personnages, dans la mise en scène des scènes cinématiques, ou en tout cas des scènes gérées par le moteur du jeu. Et c'est super. Rien que ça, déjà, visuellement, pour ce qui saute aux yeux et ce qui, moi, en tout cas, m'a happé le plus, manette en main, dès le début, c'est trop bien. Et cette maestria et cette intelligence, surtout, on la retrouve déjà ici, beaucoup. Et puis, en plus, après, à tous les niveaux, hein, vous allez voir, ça s'arrête pas là, mes petits potes. Oh non. Loin de là. Mathias, je peux vous dire qu'il y a de la suite dans Linda. Oh putain, c'est raté. C'est totalement raté. Il s'appelle Mathias Linda, il a de la suite dans les idées. Vous ne l'aviez pas, c'est normal. Hein. Ouh, il n'y a pas que l'élocution et la grammaire qui sont partis pendant tous ces mois, mes petits amis. Il y a l'humour aussi. Je suis désolé. Allez, on avance. Ah, je me suis lancé sur la piste de la blague et j'ai chuté, comme cette skieuse en son temps. Pourtant, c'était sa piste. On pensait que j'avais les épaules solides. Et finalement, pas du tout. C'est terrible.
Au départ, voici Marion Roland, cinquième des derniers championnats du monde, 4 places dans les 10 premières en Coupe du Monde cette année. On a dit ici que Marion, eh bien, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Revillet est en bas en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide.
Oh non, ah ben non, non.
Eh ben, quoi, qu'elle a pas solide du tout.
Non, non.
Ah non, c'est non. Pas possible.
Cette déférence et ces références à beaucoup des chefs-d'œuvre du JRPG, on la retrouve aussi également dans le scénario, forcément. On est dans l'univers d'Eldrea, sur le continent de Valandis. On suit au départ Glenn, un membre d'une troupe de mercenaires, qui est un pilote d'armure céleste très doué. Voilà, jeune premier, cheveux rouges, aventurier basique, etc. Ça se passe mal, hein. Ça se passe très mal assez rapidement, puisqu'il est au centre d'un génocide, d'une catastrophe qui fait des milliers de morts. Il essaye d'empêcher quelque chose, il y a une sorte d'arme magique, une pierre qui brille. Il la brise parce qu'il a peur que les méchants s'en servent, et en la brisant, ça fait tout exploser autour de lui. Donc Glenn, il est pas bien, quoi. Et ensuite, à partir de là, on va suivre l'histoire de Glenn, de son pote Killian.
Vous êtes pas content ?
Triplé aussi dans la bande de mercenaires. Ils vont essayer de se renseigner sur la pierre, sur ce que c'est que cet outil magique, sur comment on peut s'en débarrasser. Glenn s'en veut beaucoup, évidemment. On va aussi après suivre par contre l'histoire de beaucoup d'autres personnages, ce qui est assez agréable et ce qui là change un peu. Alors il y avait ça dans FF9, si vous vous souvenez, où on suivait à des moments les, ça s'appelait les Active Time Events, où à des moments dans l'aventure, dans FF9, on changeait de point de vue, on voyait des petites scénettes du point de vue d'autres personnages. Et il y a d'autres jeux aussi qui nous font suivre la trappe de différents personnages où on passe de l'un à l'autre. Mais là, au départ, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus fréquent, à tel point qu'on est presque un peu perdu parce qu'on passe au début d'un personnage à l'autre assez souvent avant qu'ils finissent par tous se rejoindre. Mais tous sont assez attachants, tous ont une position intéressante dans l'histoire, et ça c'est vachement moderne, je trouve, c'est vachement intéressant. On a en fait beaucoup des étapes importantes du JRPG et de ce qu'on attend, de la progression, des enjeux qui montent, beaucoup de clichés, hein. Glenn, évidemment, il va se rendre compte qu'il a une place plus importante que ce qu'il pensait dans l'économie globale du monde, etc., etc. Il y a des machinations, des méchants qui se révèlent, enfin, vous connaissez la chanson. Mais tout ça est très rythmé, très dynamique. Il y a quand même quelques surprises, par-ci, par-là. C'est bien fait, c'est référencé, mais pas tant que ça, même si bon, il y a aussi un petit château à la Suikoden qu'on peut remplir, hein. Oui, ça va bien jusque-là, les petites références. Et ouais, ce changement de point de vue assez récurrent, ces personnages qui ont tous quelque chose à dire, qui ont tous leur moment pour briller, il n'y a aucun faire-valoir, à part quelques personnages bonus qu'on peut récupérer ou pas, bah évidemment qui sont du coup un peu moins impliqués dans le scénario global. Vraiment, c'est très bien fait, en fait. C'est comme pour ce que j'ai dit avant, on sent tout ce qu'il aime, tout ce que nous on aime, toutes les références et tous les points de passage un peu obligatoires du scénario, mais tout est bien fait, tout est malin, et le rythme et le côté moderne se ressentent aussi beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui m'a vraiment plu et ce que je vais garder en mémoire, je pense, c'est aussi la volonté affichée, parce que souvent dans les JRPG à l'ancienne, on peut déceler des motifs thématiques qui reviennent, mais ils sont jamais vraiment très clairs parce qu'ils sont souvent cachés derrière beaucoup de, on va dire, de passages obligés du genre et de l'écriture un peu animée shonen. Mais là, pour le coup, il y a une volonté d'avoir un vrai discours sur une thématique. Vu ce que je vous ai dit sur la mise en place du jeu, ça, évidemment, ça va tourner autour du remords, etc. Tout ça, c'est exploité à travers divers personnages de différentes façons. Il y a plusieurs réponses. Le propos est assez moderne. Ça m'a beaucoup touché. Et ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça super d'avoir un JRPG écrit de façon moderne, alors même qu'il fait appel à tout ce qu'on aime dans le genre quand même. C'est un peu la même chose dans Chris Tales, dont j'ai pas parlé dans Niveau Supérieur, mais que j'ai fait quand même, quasiment jusqu'à la fin, je crois, où là aussi, on avait beaucoup des étapes obligatoires du genre, mais quelques surprises, et un propos qui n'a pas peur de s'afficher au grand jour dans ce qu'il a à dire sur tel ou tel sujet, quoi. On sent vraiment que ce propos thématique, Mathias Linda le met en avant. Et là, j'ai réussi une bonne blague. Par contre, faut connaître Linda Lemay, qui est une chanteuse québécoise, je crois. Bon. Ce qui, encore une fois, je dis pas que c'est pas le cas dans les JRPG classiques, juste que c'est souvent pas ce qui est mis en avant le plus, quoi. Parce qu'on a plus tendance à retenir les clichés ou les étapes basiques et qu'on retrouve dans tous les jeux du genre, plutôt que « Ah, ce jeu, il a vraiment un truc à dire sur ça. » Ou alors chaque personnage a un petit propos. Mais là, il y a un propos global qu'on retrouve à travers tous les personnages. Et l'univers est vraiment pas mal, il y a des règles intéressantes qui sont bien exploitées. Enfin, c'est un bon scénario, en fait, les gars. Je vais pas m'étendre mille ans dessus, mais c'est bien, quoi. Tout simplement, c'est bien. On a envie, à la fin, d'en voir plus. Et il y a même quelques choses, je crois qu'à un moment, on nous présente des grands monstres légendaires. On se dit, on va aller les taper. On va pas les taper. C'est dommage. Mais ça donne envie du coup d'avoir d'autres jeux dans le même univers. Et je crois que Mathias Linda a dit que même s'il faisait pas forcément tout de suite justement un Chained Echoes 2, il avait envie de faire des jeux qui se passaient dans le même univers. Donc je pense qu'il a là, il a lancé des trucs qui du coup seront réexploités et auxquels on aura peut-être une réponse à terme. Donc non, c'est super. Et en plus, non, vraiment, la conclusion du jeu est un peu surprenante, je trouve. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, on est là jusqu'à la fin. Et puisque c'est aussi un jeu moderne, les personnages féminins ont un peu plus de choses à dire et de choses à faire que ce qu'on a l'habitude de voir dans les JRPG, ce qui change un peu et est plutôt agréable. Donc voilà, c'est trop bien. Et là, on va arriver à l'exemple parfait de ce qu'a réussi à faire Mathias Linda en termes de référence sublimée, avec évidemment le système de combat. Alors, c'est bien sûr du tour par tour, hein, parce qu'on reste dans cette idée de référence. Pas de combat aléatoire, on voit tous les ennemis à l'écran, donc ça c'est plutôt agréable. L'ordre des tours est affiché en haut, comme dans Final Fantasy X, comme dans Grandia, dans les Trails of, dans beaucoup de jeux finalement. Et ça c'est toujours trop bien dans Dragon Quest aussi, je crois, parce que du coup, on a envie de buffer nos personnages, de faire attention à leur agilité pour qu'ils aient plus de tours, ou alors de débuffer les ennemis pour qu'ils agissent moins, etc. C'est toujours hyper simple, mais quand on voit les petits portraits s'afficher, on sait qu'on va bien s'amuser très vite. Mais ce système de combat, il est vachement original malgré tout. Donc il a beau avoir des références assez importantes, utiliser un système très classique et très commun, il a un truc qu'on n'a jamais vu en fait. Comment l'expliquer ? En gros, quand vous commencez le combat, vous allez très vite voir que vous avez une sorte de jauge, je crois que ça s'appelle la jauge d'overdrive, il y a une partie jaune, une partie verte et une partie rouge. La partie verte est la plus grande la plupart du temps. Quand vous êtes dans la partie verte, vous êtes dans le sweet spot, c'est super, vos actions coûtent moins de points de magie ou de points de technique, et vous recevez moins de dégâts, et je crois que vous en faites un peu plus. Donc c'est trop bien. Chaque action que vous faites vous fait augmenter le curseur vers la droite. Évidemment, la partie jaune est à gauche, la partie verte est un peu plus à droite et la partie rouge un peu plus à droite. Donc en fait, si vous faites que attaquer ou faire des compétences ou des magies, bah au bout d'un moment vous allez passer du jaune au vert. Le jaune c'est la partie un peu neutre, donc c'est bien au début d'enchaîner les trucs parce que du coup vous passez du jaune au vert, vous êtes au top. Mais si vous continuez, vous allez finir dans le rouge, et quand vous êtes dans le rouge, vos compétences coûtent plus à activer et vous subissez plus de dégâts, et ça c'est pas super. Donc comment on fait ? Bah en fait vous verrez que quand vous serez dans le vert, dans l'overdrive au max, enfin là où il doit être, certains types de compétences, genre ça peut être des, enfin en gros il y a des symboles qui font qu'une compétence est associée à un certain type, certaines vont faire réduire le curseur pour qu'il revienne un peu vers la gauche. Et du coup il faut réfléchir un peu à certains moments pendant le combat à « Ah, là faudrait que je fasse ça ». Mais si je fais ça, le curseur va aller vers la droite, je vais tomber dans le rouge. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose pour que le curseur revienne vers la gauche. Et ça ajoute un petit pan en plus aux batailles qui est vraiment super, qui fait réfléchir, qui rajoute un petit côté stratégique même aux affrontements un peu bénins. En fait, il n'y a pas tant d'affrontements bénins que ça, parce que même les créatures qu'on rencontre un peu au pif, certaines sont un peu dures quand même. J'ai eu quelques game over et quelques passages un peu difficiles, même contre des monstres basiques. Heureusement, quand on perd, on peut recommencer directement le combat, donc ça c'est trop bien. Ça c'est les petits côtés modernes de qualité de vie qui font toujours plaisir. Et ce système, il est super en fait. Et d'autant plus qu'il privilégie vachement toutes les compétences plutôt que d'enchaîner les attaques basiques. C'est quasiment jamais utile de simplement attaquer. C'est toujours mieux que de faire une compétence, donc ça c'est très agréable. En plus, on peut changer nos personnages à la volée. En fait, il y a des sortes de doublettes. Vous avez 4 personnages dans un combat, et chaque personnage, chacun des 4, peut être remplacé par un autre personnage. Donc en gros, vous en avez 8, mais par groupe de 2, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer... Si Glenn et Killian sont mis ensemble en doublette, je ne peux pas changer Glenn et l'aîné, par exemple. Parce que l'aîné, elle est en doublette avec... un autre personnage, Victor. J'ai pensé à un autre nom. Donc voilà, c'est vachement simple. En soi, le changer de personnage, c'est aussi présent dans d'autres jeux, dans FF10 notamment, puisqu'on le citait tout à l'heure. Mais là, c'est un peu modifié, et c'est ce truc de l'overdrive qu'il faut gérer, il est vachement bien, surtout qu'il y a des boss parfois qui vont faire des attaques qui vont augmenter l'overdrive, ou alors ils vont totalement modifier la jauge et mettre du rouge un peu partout, et il n'y aura plus qu'un tout petit bout qui sera vert. C'est super. C'est... jamais vu, je crois, dans les JRPG. Et ça, c'est fou d'encore faire un système de combat au tour par tour qui n'a pas été fait. C'est une innovation vraiment bienvenue, vraiment incroyable. C'est trop bien. Ça représente bien toute l'idée de Mathias Linda et tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, quoi. De prendre des références, mais de les sublimer et de ne pas se contenter d'une simple grande avenue nostalgique qui nous ferait revivre les heures de gloire du genre, mais de continuer à le faire vivre, ce genre, en fait, à travers ce genre de trucs. Donc c'est trop bien. Et il y a en plus un autre système de combat, un deuxième, quand on est en armure céleste, en gros en méca, quoi, hein, qui est un peu différent, je vais pas rentrer dans les détails, mais où là c'est plus des histoires de première vitesse, seconde vitesse, troisième vitesse, et quand vous êtes en première vitesse, le curseur va à droite, quand vous êtes en seconde vitesse, le curseur va à gauche, quand vous êtes en troisième vitesse, en zéro, il va nulle part, mais le problème c'est qu'en vitesse 1, ça va à droite, mais c'est normal quoi, vitesse 2, vous faites plus de dégâts, mais vous en prenez plus, et le curseur va à gauche, enfin, faut un peu gérer ces trucs, c'est vachement bien, ça joue un peu avec l'overdrive, mais d'une autre façon, et du coup c'est très agréable aussi, les combats en méca, ils sont un peu différents. Non, franchement, c'est super. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, il n'y a pas de niveau dans le jeu. Il n'y a pas à pexer, à prendre plein de niveaux, à grinder, à farmer. C'est pas la peine, parce que vous allez gagner un petit peu si des points de compétences pour améliorer, les attaques que vous avez déjà. Mais en soi, vous ne pourrez pas gagner de niveau. En fait, vous gagnez des niveaux à des moments de l'histoire importants. Après un boss, vous avez de quoi obtenir une nouvelle compétence, en apprendre une nouvelle. Et ensuite, vous pourrez l'améliorer grâce aux points que vous récoltez après chaque combat. Mais du coup, c'est pas mal parce que le jeu permet d'être très très bien équilibré parce que les créateurs ont pu gérer la courbe de difficulté puisque c'est eux qui donnent ça s'appelle les bouts de grimoire, pas bouts, mais je sais pas, les éclats de grimoire, ça doit être ça, éclats de grimoire, puisque l'arme du début que Glenn déclenche s'appelle le grand grimoire, même si c'est une pierre, je sais, c'est bizarre, c'est comme ça. Le jeu l'explique, hein, pourquoi ça s'appelle comme ça, je crois. Mais du coup, voilà, le jeu distille un petit peu les points de compétence quand il le veut, on peut pas du coup abuser du jeu, abuser du système et se retrouver trop fort au bout de 15 heures parce qu'on a passé 1000 ans à enchaîner les combats aléatoires. Il n'y a pas de ça, donc c'est super. Et en plus, ce qui est malin, c'est que ça s'enchaîne bien avec aussi les récompenses d'exploration dont je parlais, parce que quand vous faites plein de petites quêtes annexes là, dans les niveaux, que vous récupérez 6 coffres enfouis, que vous combattez 5 monstres comme ça, etc., au bout d'un moment, si vous faites plein de combos de récompenses d'exploration, vous avez des méta-récompenses de « Ah, t'as fait une chaîne de 10 récompenses sur la grille, t'en as enchaîné 10 qui sont côte à côte, du coup, tu gagnes un éclat de grimoire. » Donc, à un moment, je sais que j'étais bloqué contre un boss qui était trop dur pour moi, et du coup, je suis allé réexplorer des zones que j'avais déjà vues, j'ai pu débloquer des nouvelles récompenses, refaire une chaîne de combos, et du coup, redébloquer un éclat de grimoire pour apprendre une nouvelle compétence dont j'avais besoin contre un boss. Puis après, je l'ai battu, quoi. Donc, plutôt que d'aller m'embêter à enchaîner les combats, je suis allé réexplorer, j'ai redécouvert des trucs, c'était cool. Et j'ai pu réobtenir, réapprendre une récompense, et c'est celle qui me manquait pour un boss. En gros, il y a un tank, à un moment, qui arrive dans le jeu, qui est plutôt mignon, un petit hibou avec un gros bouclier. Et lui, il doit prendre l'agressivité des ennemis, quoi, l'aggro, hein, comme on dit. Et j'avais pas choisi la compétence qui lui fait prendre l'aggro parce que je suis con et du coup je me faisais battre par des attaques super fortes alors que c'est le jeu nous apprenait à ce moment-là qu'il fallait que ce soit lui qui les prenne les attaques quoi. Et moi je pouvais pas le faire donc j'avais un peu l'air con quoi. Mais du coup j'ai pu m'en sortir grâce à tous ces systèmes qui sont imbriqués ensemble et qui vont super bien et qui encore une fois offrent un truc assez novateur de il n'y a pas de niveau, les niveaux c'est les éclats de grimoire finalement et ils seront là ou bien dans l'histoire ou bien parce que t'as vachement bien et t'as vachement ratissé toutes les zones que tu pouvais ratisser quoi. Donc c'est trop bien, en vrai. C'est vraiment hyper bien pensé. Il y a aussi tout un système de cristaux qu'on peut insérer dans nos armes pour gagner plus 10 de crit, etc., etc. Donc ça c'est un peu plus fastidieux, surtout que comme le dit je crois Tetril, un youtubeur qui s'intéresse au JRPG dans sa vidéo sur Chained Echoes, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est super, c'est vrai que c'est dommage parce que on a tellement souvent des nouvelles armes que finalement on passe nos temps à retirer les cristaux qu'on a mis dans nos armes pour les remettre dans les nouvelles, et c'est un peu chiant. Si on devait faire un reproche au système, ce serait peut-être celui-ci. Mais à part ça, c'est trop bien. Encore une fois, les compétences qu'on apprend avec des points et qu'on améliore, ça rejoint FF9, hein, c'est pas hyper novateur. Dans les Tales of aussi, il y a ça. Mais là, ils l'utilisent d'une façon hyper intelligente et c'est trop bien. J'ai même pas parlé de l'autre jauge du système de combat, qui est la jauge d'attaque spéciale, qui se remplit petit à petit et du coup qui fait qu'au bout d'un moment dans le combat, chaque perso a sa propre attaque un peu stylée, avec une petite animation qui peut se déclencher, et qui en plus réduit la jauge d'overdrive. Mais du coup, voilà. Il y a aussi des compétences spéciales qu'on peut trouver en ratissant bien les lieux qu'on explore pour trouver des emblèmes de classe un peu spéciaux. Bref, il y a plein de trucs. C'est... En fait, on sent que Mathias Linda, il est comme vous et moi, quoi. Il est des nôtres, hein, comme on a dit. Il a fait ses JRPG comme les autres. Parce qu'il a l'amour du système de combat, du tour par tour, de tout ça. Mais il ne s'est pas contenté de le singer. Il en a fait un nouveau. Donc c'est fou. C'est vraiment fou, tout simplement. Profite de ce super thème de combat pour en lâcher une pour Eddie Marianucro, qui a fait l'OST de Chained Echoes, qui est super, hein, vous pouvez l'entendre depuis le début de ce podcast, elle est vraiment top, pas grand chose à dire à part ça, hein. Mais voilà, en fait, ce jeu, c'est une lettre d'amour au JRPG, mais pas une lettre d'amour flinguée, pleine de platitudes et de métaphores convenues, c'est une belle lettre d'amour, et dans notre village des JRPG, ce serait sûrement ça. Une belle lettre d'amour que vous trouvez par terre dans la rue et qui est bien écrite. Et plutôt que de dire « je t'aime et je me suis noyé dans tes yeux », bah on sort des métaphores un peu plus stylées, quoi. On se gratte un peu la peinture. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait Mathias Linda et on peut que lui être reconnaissant. Et c'est pour ça que vous le sentez sûrement, ce jeu m'a beaucoup marqué. Surtout que bah, j'en parlais au début, du coup j'ai écrit un livre et du coup pendant très longtemps les JRPG ces derniers mois... voire année, ça a beaucoup été je suis en train d'écrire un truc sur ça, faut que je vérifie en lançant le jeu, faut que je joue quelques heures pour me souvenir, est-ce que ce que je dis sur les menus ça marche, etc, etc, vu que je me suis vachement intéressé à l'expérience de jeu que nous procurent les JRPG, bah, j'ai dû prendre un peu de recul et être un peu analytique sur tout ça, et du coup j'ai eu du mal à la fin du livre, que j'ai fini je sais pas courant juillet, à me remettre dans un JRPG et à prendre du plaisir comme au bon vieux temps, quoi. Alors pourtant, je venais d'écrire des centaines de pages dessus. Mais ce jeu m'a permis de le faire. Et c'était pas gagné. Et j'y croyais pas trop. Et pourtant, ça s'est quand même fait. Et rien que ça, c'est trop bien. Et je pense qu'un jeu d'une moins grande envergure au niveau de ses ambitions et de son intelligence aurait pas réussi à le faire. Et du coup, c'est fou. C'est fou. Et je pense que ça peut être un très bon premier JRPG en vrai, hein. C'est pas la peine d'avoir toutes les références qu'il y a dans le jeu, même s'il y en a. Je parlais de Suikoden pour le château qu'on remplit de bonhommes. Ah, les mechas, ça fait penser à Xenogears. Même un peu la façon dont la psyché des personnages est invoquée. Bon, ouais, vous savez que je sais plus parler. Mais ouais, ça, il y a des références. J'ai parlé d'FF10, d'FF9 dans le système et tout. Il y a des trucs. Les gens qui apprécient les JRPG les verront. Même Chrono Trigger à des moments et tout. Bref, peu importe en fait. Je pense que ça peut être un très bon premier JRPG si vous n'en avez jamais fait. Ce serait bizarre d'écouter le podcast, mais qui sait, c'est possible. Je crois que j'en connais un ou deux d'ailleurs. Ça serait le cas, quoi. Ça serait le moment de se lancer dans le Chain Decoz. Il est facilement accessible sur PS4, sur Switch, sur un PC qui fait pas tourner beaucoup de choses. Il est dans le Game Pass de Microsoft. Allez-y, quoi, lancez-vous. Moi, j'ai mis 40 heures, mais je suis un peu lent. Je pense qu'en 30, en ligne droite, il se fait facile. Et voilà quoi. Après, ce sera sûrement dur de retourner au JRPG à l'ancienne, parce que là, il y a beaucoup de qualités de vie modernes qui sont intégrées. Je veux dire, recommencer le combat sans se taper une sauvegarde qu'on doit charger et tout. Il y a plein de trucs comme ça qui sont trop bien, même au niveau de comment on peut vendre beaucoup de choses d'un coup. Bref, vous savez, les trucs modernes qu'on peut faire maintenant et qui facilitent un peu la vie dans les JRPG. Ce serait dur si ce jeu, vous le faites, que c'est votre premier et qui vous fait tomber amoureux du genre, ce que j'espère. Ça sera dur de revenir en arrière. Mais bon, c'est un excellent premier jeu, je pense, quand même, malgré tout. Donc voilà, Chain Decoz, c'est une claque. C'est une claque et ça fait plaisir de voir que la nostalgie, c'est pas forcément juste un argument marketing, quoi. Parce qu'à l'ère de Octopath Traveler, alors j'ai rien contre ce jeu. Si, j'ai des trucs contre ce jeu en fait, mais il est très beau. Hein, je parlais de. Vous pouvez aller voir des vidéos si vous voyez pas à quoi ça ressemble. Il est magnifique le pixel art de Octopath Traveler, il n'y a rien à dire. La HD 2D de Square Enix, là où il y a du pixel art, mais éclairé comme un jeu en 3D, et c'est fou, c'est trop beau. Et là aussi, on joue un peu avec l'idée que nos souvenirs de jeu sont embellis. Et là, on nous fait vivre la version embellie plus plus des souvenirs qu'on a. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs que, même si le jeu est bien, hein, en vrai, Octopath Traveler, c'est un bon jeu. Et peut-être qu'on en parlera un jour. J'ai commencé, bah, comme j'ai commencé beaucoup de jeux, je ne les finis pas. Faudra voir si je le finis. Mais je l'ai commencé, j'y ai joué quelques heures, il est super. Mais ça arrive pas à la cheville de Chain Decoz, quoi. Parce que là, on veut nous vendre une nostalgie sans vraiment beaucoup d'innovation. Parce que même si le système de combat de Octopath Traveler il est bien, c'est celui de Bravely Default. Donc bon, ça fait quand même déjà 10 ans qu'on nous le sert. Hein. 10 ans, c'est pas long par rapport à l'histoire du genre dont on parle, mais ça commence à faire un petit peu. Du coup, voilà quoi. Là, pour le coup, il y a une nostalgie saine de « Ah, c'était vachement bien ». Mais pour que ça continue à être vachement bien et que ça nous procure des émotions, bah il faut faire d'autres choses, quoi. Faut un peu innover. Et tout en respectant un peu certains codes obligatoires du genre qui font qu'on l'aime. Donc incroyable. Incroyable, Chain Decoz, foncé. Et là, cette année, il y a Sea of Stars, du coup, qui va sortir. Et ça va être un combat intéressant entre ces jeux indépendants qui font appel à la nostalgie. Qui, évidemment, quand je parle de JRPG indépendant, sûrement que vous avez en tête Undertale. Hein. Il faudra sûrement qu'on en parle un jour. Il faudrait que je le refasse. Mais bon, bah, j'ai déjà fini. Donc, faut que je me motive à recommencer, quoi. Mais là, c'est pas pareil. Undertale, c'est une frange du JRPG indépendant beaucoup plus, on va dire, une niche, quoi. C'est expérimental un petit peu en fait, Undertale. Alors que là, c'est un peu plus grand public, sans pour autant être idiot, sans pour autant être feignant, sans se contenter d'être une simple redite de ce qu'on connaît déjà, quoi. Donc ça me parle plus. Non, j'adore Undertale, hein, attention, je sais que les fans sont un peu virulents, mais là, c'est un chemin un peu différent et hyper agréable, quoi. Donc, vous m'en direz des nouvelles de ce bon vieux Chain Decoz. On remercie tous Mathias Linda, hein, Dankeschön. Et ouais, on est cosmopolite. Et voilà, quoi, tout simplement. Bravo, bravo. Et puis bon, bah, c'est un Allemand qui l'a fait. Donc, moi, ça montre encore une fois que le JRPG, c'est un genre plutôt qu'une AOC géographique. Non, AOP, on dit. Ouais, bon. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez de faire les malins aussi, vous. Et voilà, on va se quitter, on va se retrouver, bon, je sais pas quand. Il y a des jeux que j'ai faits pendant mon livre, que j'ai terminé, et j'ai pas fait d'épisode dessus. Donc on verra si j'arrive, dans les semaines qui viennent, là, à faire un épisode sur un jeu que j'ai fini il y a longtemps. Ça serait une belle expérience, ça serait peut-être un petit peu différent. Et puis bah, des enfants de la TB, pourquoi pas aussi, ça fait plaisir. Après, vous savez, hein, vous avez entendu la virgule au début, la bonus tracks. Label de podcast dont Niveau Supérieur fait partie. Il y a plein d'autres trucs super à écouter. Même moi, je fais parfois d'autres émissions dans Bonus Track, si vous m'adorez. Ouais, je vous en remercie. Mais voilà, vous pouvez creuser de ce point de vue-là. Il y a eu une petite interview avec Charles du podcast Spoilers dans le flux de podcast Bonus Tracks, Tracks comme une chanson. Et il y a une interview de moi où je parle de Niveau Supérieur et tout, justement. Si ça vous intéresse, ça peut faire office de FAQ, je sais pas. Mais en tout cas, c'est disponible, ça existe, sachez-le. Je sais pas si j'avais déjà dit, peut-être j'oublie parce que je fais des podcasts une fois tous les 6 mois. Mais bon, voilà où on en est. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à faire un... Oh là là, et bon, allez. En même temps, ça fait l'après-midi là que j'enregistre et que j'enregistre et je monte en même temps. Je sais pas si c'est très malin, mais en même temps, j'ai dit que le podcast sortait demain et il est 19h. Donc, c'est peut-être pas malin, mais c'est tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà. Du coup, merci d'avoir écouté. Lâchez un petit com, c'est ça que je voulais dire, pour dire c'était bien, c'était pas bien, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. N'hésitez pas à faire vos remarques, elles seront lues et entendues, et peut-être même prises en compte, qui sait. Sur ce, portez-vous bien et surtout, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez plus ça en tête, mais il ne faut pas oublier que dans la vie, comme dans les jeux, l'important... Attendez, c'est quoi la fin ? Non, la vie comme dans les jeux... Ouais, si, à la fin, ça finit par niveau supérieur, en tout cas. Ce qui compte le plus dans la vie comme dans les jeux, c'est de faire son maximum, toujours, pour passer au niveau supérieur. Et puisqu'on a parlé de lettres d'amour, et de jolies lettres d'amour, on va se quitter en musique avec peut-être l'une des plus belles lettres d'amour qui soit. Allez, bisous.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me